Nari. Hilario Yaben, vicaire capitulaire de Sigüenza, Eugenio Domaica, vicaire capitulaire de Cadix, Emilio Garcia, vicaire capitulaire de Ceuta, Fernando Álvarez, vicaire capitulaire de León, José Zurita, vicaire capitulaire de Valladolid. Tous les prêtres d'Espagne, pour la plupart modestes, pour la plupart éloignés du pouvoir et pour la plupart proches du peuple, se plièrent de gré ou de force aux principes promus par cette lettre de soutien inconditionnel au général Franco et durent mettre leur soutane par-dessus leur conscience. Nombreux furent ceux qui le payèrent de leur mort. Dans un journal français du 27 août 1937, Paul Claudel donna son approbation enthousiaste à cette lettre collective. Il avait précédemment exprimé, avec la même ferveur, son soutien à Franco et à sa croisade sublime. Que Franco, ce triste personnage, emporta l'adhésion d'esprit dit « excellent » était pour Bernanos une chose inconcevable. « Sans doute, écrivait-il, n'aurais-je jamais parlé du général Franco si vous n'aviez prétendu faire d'un galifet de cauchemar une sorte de héros chrétien à l'usage français. Pourquoi, diable, exigerait-on de moi que j'admire une sorte de général qui se fait de sa légitimité personnelle une idée d'autant plus féroce qu'il s'est parjuré lui-même deux fois envers ses maîtres. Claudel, disais-je, approuva la lettre collective de l'épiscopat espagnol avec une passion égale à celle qu'il mettait à détester les Juifs et à soutenir que le mal français venait bien davantage des ouvriers protestataires que de Hitler ou de Mussolini. Certains se laissèrent abuser par cet argument. Pas Bernanos. À en croire les bien-pensants, écrivit-il, l'ouvrier français, comblé, crèverait de bien-être et de rappeler les conditions de vie épouvantables de ces derniers. Bernanos avait compris qu'en aboyant contre les ouvriers français, Claudel et quelques autres ne faisaient que couvrir le bruit produit par les deux tyrans avec leurs bottes et leurs jaculations. Et il repoussa, sans une hésitation, toute complicité dans l'entreprise infecte de rendre les ouvriers français seuls responsables de la faillite d'un régime. La révolution est-elle mort-née ? Se demandait José en regardant sa mule noire tourner autour de la Noria. Dois-je faire le deuil de la vie dont j'avais tant rêvé à l'Elima ? Est-ce là ce qu'on appelle mûrir ? Cette défaite ? Par la bouche de Diego, les discours communistes qui rabâchaient, selon la technique bien éprouvée de la propagande, que les libertaires étaient les alliés objectifs de Franco, semblaient avoir bien pris auprès des villageois. Si bien que José chuta progressivement dans leur estime, jusqu'à devenir un objet de réprobation publique, une brebis galeuse. Les petits propriétaires le blâmaient au nom de la propriété foncière, qu'il avait voulu anéantir. Les journaliers, au nom de l'organisation du travail, qu'il avait contesté. Les dévotes, au nom de la religion, qu'il avait blasphémé en peignant de rouge la couronne de la Vierge. Les délicats et délicates, au nom de la délicatesse, qu'offensaient ses jurons bien sentis et un beau répertoire d'imprécations. Et Diego, au nom d'une vieille rivalité d'enfance, opportunément convertie en haine politique. Dans un premier mouvement, la réaction de José, aussi logique que paradoxale, fut de se replier d'autant plus vigoureusement sur son utopie libertaire qu'elle était violemment décriée. Il disait que rien, jamais, ne viendrait à bout d'elle. Qu'elle était une lueur tremblante au fond d'un puits d'espoir, un souffle généreux dans un monde cafard. Il disait que l'avoir hébergée ne fût-ce qu'un moment avait fait de lui à tout jamais un autre. Il disait que l'Espagne était la seule terre où elle pouvait croître. Et les jours de grande inspiration, il disait qu'elle était cette fleur dont les graines enterrées durant des millénaires conservent inentamées le pouvoir de fleurir. Que les Kleps obéissent à Diego, moi, j'obéis à ma chimère, lançait-il à sa mère qui le regardait éberluée et profondément inquiète. Puis, insensiblement, sa foi se fit chancelante. Il déchanta, ou plus exactement, il traversa une période